Affinité Lective, une émission de Francesca Isidori. Jeune militant antifasciste de l'entre-deux-guerres, résistant lors du second conflit mondial, ancien militant communiste, philosophe et intellectuel engagé, maître de liberté, libérateur même, selon son ami Pierre Vidal-Naquet, il est devenu très tôt le grand helléniste qui a révolutionné l'étude de la Grèce antique, en ouvrant ses recherches aux méthodes et aux questions de la psychologie historique et de l'anthropologie sociale, et en pratiquant une approche pluridisciplinaire et comparatiste qui a permis de poser un regard neuf sur les institutions, la religion, les formes du discours, le mythe et la tragédie, la genèse et les marges de la raison, le statut des images, la représentation de soi, les notions d'espace et de temps dans le monde grec. Personne n'a su comme lui pénétrer et mettre en lumière l'esprit et l'univers mental des anciens Grecs. Une existence d'engagement et d'études qu'il aime parfois à résumer en une boutade. J'ai essayé toute ma vie de comprendre comment les Grecs regardaient la Lune. Les affinités électives de Jean-Pierre Vernant. Bonjour Jean-Pierre Vernant.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir chez vous.
Vous êtes déplacé chez ce vieux débris.
Jean-Pierre Vernant, vous avez souhaité commencer cet entretien par une chanson qui s'intitule « Fleurs cueillies ».
Sur la colline.
Fleurs cueillies sur la colline. Et qu'évoque cette chanson pour vous ?
Écoutez, elle évoque tout un monde. C'est une chanson que j'ai entendue quand j'étais encore... après la guerre, militant communiste. Et je l'ai choisie parce qu'elle m'avait frappé dans ces chants révolutionnaires qui ont nourri mon adolescence et même un peu plus après, que je connaissais tous. Il y avait celle-là qui était un peu à part et qui était, comment dirais-je, d'abord, elle était, je pense, c'était une chanson ouzbek ou quelque chose comme ça, ou tadjik, avec une musique qui n'était... c'était pas les chansons russes, dont certaines sont très belles, mais c'était à part. Et alors, cette chanson dit à peu près « Feuilles, fleurs cueillies sur la colline, ton parfum s'envole au vent. À quel regret, il est mort, notre ami Lénine, mais son nom reste vivant. » Alors, je l'ai choisi parce que c'est une chanson triste, c'est pas triomphaliste. Il est mort. Son nom reste vivant, mais c'est pas aussi simple. Pour moi, c'était ce sens-là, à la fois de cette espèce d'immense empire soviétique où des gens tellement différents des Slaves, des Russes, se sont sentis entraînés dans le même mouvement, mais pas pareil. D'abord parce que il y a quelque chose qui me plaît dans cette chanson. À quel regret ! À quel regret ! C'est pas encore ceux qui ont remplacé les époustouflantes tsars de Russie. Hein. Quel regret. Il est mort, notre ami Lénine, notre ami. J'aime bien vous dire que l'expérience que j'ai eue ensuite de l'Union soviétique, où j'étais en 1934, c'était pas notre ami Staline, je croyais ça, j'étais jeune, idiot. Je m'imaginais qu'on allait avoir peut-être même une entrevue avec le camarade Staline, et j'imaginais, dans ma naïveté incroyable, que le camarade Staline serait aussi content de voir des jeunes communistes français que nous, de voir le camarade Staline, et que, bien entendu, on se tutoierait, qu'on serait des communistes.
Ça ne s'est pas passé comme ça.
Ah non, on ne l'a pas vu d'abord. Mais en fait, c'était tous les portraits de Staline partout, ça n'avait rien à voir. Mm-hmm.
Jean-Pierre Vernard, je vous ai demandé de chercher des photos de votre jeunesse. Et c'était je vois que vous avez à côté de vous plusieurs photos.
J'en ai un paquet. 38. Printemps 38. Alors moi, printemps 38, j'avais été reçu à mon agrégat de philo l'année d'avant, en 37. J'étais parti dans les troupes alpines, au 6e chasseur d'abord, à Grenoble, et ensuite dans la Haute-Maurienne, parce que je voulais profiter au moins du service militaire pour faire de la montagne et du ski. Donc j'étais là, en haute montagne, même ensuite, au début de la guerre, dans une section d'éclaireurs skieurs. Mais alors en 38, profitant d'un congé que j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai convoqué une jeune fille, toute jeune, 20 ans, Lida, pour que, si elle pouvait venir en même temps que moi dans le midi, on se retrouverait là-bas. Et donc, il y a eu ce fait que Lida, que vous verrez là, comme les auditeurs ne la voient pas.
Mais vous nous allez parler de Lida.
Voilà, là, à cette époque.
Magnifique.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà son ostrogo de copain. L'ostrogo, le voilà en pleine action.
J'aimerais que vous nous parliez de ce jeune homme.
Alors ce jeune homme, il est donc là dans les troupes alpines. C'est 38. Qu'est-ce qu'il y a 38? Il y a elle, il y a moi, il y a tous les copains, parce qu'elle amène avec elle un tas de copains. Il n'y a jamais dont on va faire la connaissance. Et il y a les auberges de la jeunesse. Parce que nous nous retrouvons dans l'auberge de la jeunesse, dans le midi. Alors, c'est encore le Front Popu. C'est encore la ligne générale de l'antifascisme. C'est encore, d'une certaine façon, pour des jeunes types comme moi, le bonheur. Le bonheur, même si, déjà en 38 et même bien avant, ma conviction, comme celle de tous mes copains, est que ça va finir dans la guerre. Et que cette guerre n'est pas, à ce moment-là, c'est ma conviction, n'est pas une guerre comme les autres. Mon père s'était engagé dans la guerre de 14, alors qu'il était réformé. Comme deuxième classe dans l'infanterie, il est tué très vite, dès 1915, je ne l'ai jamais connu. Et donc la période de ma vie, où je suis enfant et adolescent, où je fais mes études scolaires au lycée Garneau, depuis la 11e, qu'on appelait l'enfantine, je devais avoir 4 ans et demi, jusqu'à la sortie des deux bacs. Ce que j'étais essentiellement, comme ma famille, de gauche. Mon grand-père, Adolphe, avait créé à Provins, puisque c'est là que je suis né, c'est là qu'il y a cette portion de ma famille. Il avait créé un journal local qui s'appelait Le Briard, journal républicain. Journal républicain, ça voulait dire qu'il était anticlérical, qu'il était à la fois contre l'Église et l'influence qu'elle avait dans ces régions, et contre les conservateurs, et également qu'elle soutenait les partis de gauche aux élections. Donc mon grand-père crée ça, il y a l'affaire Dreyfus, le canard se range du côté de Dreyfus, ce qui n'est pas facile, parce que les gens de Provins, ils ont plutôt tendance à aller dans un autre sens. Mais enfin, le journal se développe quand même. Et puis mon grand-père meurt très vite. Très vite, très tôt, je veux dire. Une cinquantaine d'années. Il faut donc que mon père aille là-bas et reprenne la direction du journal. C'était ça mon milieu.
Jean-Pierre Vernant, c'est alors tout naturel pour vous de vous inscrire très jeune à l'Association internationale des athées révolutionnaires. Et alors, c'est un peu paradoxal, un peu étrange pour le moins, quand on pense au futur professeur du Collège de France, titulaire de la chaire d'études comparées des religions antiques. À 16 ans, vous lisiez Marx. Donc, pour vous, la religion, c'était l'opium du peuple.
Bon, je lisais mal, parce que Marx, il ne dit pas que c'est l'opium du peuple. Il dit que c'est l'opium du peuple, mais il dit ça entre d'autres phrases, où il dit que c'est la spiritualité d'un monde sans esprit. C'est la liberté d'un monde où on est enchaîné. C'est-à-dire, l'opium du peuple, pas au sens que ça vous endort, mais au sens que ça vous permet de vivre dans un monde inhumain, parce qu'à travers l'opium, ce sont les rêves d'un homme qui serait vraiment un homme qui est là. Enfin, c'est vrai que je pense que je suis en philo au lycée Carnot. Quand je décide de m'inscrire, j'avais un professeur qui était très spiritualiste, qui m'irritait comme façon de philosopher. Et donc j'avais décidé d'adhérer à une association internationale des Bezbojniks, des sans-dieux russes, avec laquelle je n'ai pas eu des contacts très grands, sauf quand j'ai été en Russie en 1934, et j'ai été épouvanté de voir ce que c'était que ce qu'on appelait l'athéisme révolutionnaire. Donc je m'inscris. C'est pas, oui, c'est certain. Je me veux, quand je suis un jeune garçon, là, 16 ans, je me veux. Je ne suis pas un très bon élève. Je suis un très mauvais élève en toute une série de matières. Un bon élève dans les matières dites littéraires, le latin, le grec, le français, la philo. Bon, là, j'ai les prix, comme on dit. Et je me veux, quoi, deux choses, je dirais volontiers. Si j'essaye de jeter par-dessus mon épaule un regard sur ce passé du jeune garçon, il a eu des professeurs de lettres, dont je me souviens bien, Gaudier, qui lui a révélé ce que pouvait être un poème latin ou grec. Je me rappelle même certains textes que j'ai appris par cœur, qui m'arrive de croire que je m'en souviens encore, ce qui est vrai.
Allez-y.
Oh non. Titirer, tu patues les récumbances,
c'était une technique minéphage.
Laissons tomber ça. Mais aussi, par exemple, je me rappelle cette espèce de fascination. J'étais médusé quand j'ai lu l'arrivée d'Ulysse quand il rencontre Nausicaa avec cette petite rivière qui cascade, qu'il est tout nu, il est affreux. Alors, il se réveille parce qu'il a passé la nuit là. Il est dans un état déplorable, il est affreux à voir, monstrueux. Il ne ressemble à rien, crasseux. On dirait un lion sauvage des montagnes. Alors, il se lève de son buisson et les servantes de la princesse Nausicaa, qui est venue laver du linge pour un éventuel mariage, et la balle a été jetée là où elle n'aurait pas dû, il y en a une qui a poussé un cri, ça réveille le brave Ulysse, et il surgit. Quand elle voit ce monstre, elle se sauve, sauf Nausicaa. Elle est la fille du roi, elle ne recule pas. Elle a 15 ans. Elle est une très belle jeune fille. Et alors, en lisant ce texte, j'avais tellement le sentiment que cet événement purement fictif, par le fait qu'il a été consigné et raconté de cette façon, Nausicaa planté là, Ulysse qui la regarde et qui lui dit à peu près, qui êtes-vous, on croirait, vous pourriez être Artémis parmi les nymphes. Je me rappelle d'avoir eu ce sentiment, ce tourment, cette admiration, cette espèce de coup au cœur devant la beauté, la vie, la jeunesse. Je me rappelle une chose, c'est à Délos, lui dit, d'avoir vu un jour un jeune palmier qui montait svelte tout droit vers le ciel. Et que c'était pareil. C'était cette espèce d'élan juvénile vers le ciel dans la beauté. Et j'étais médusé devant vous aussi. Je suis médusé. Alors, le contact est pris. Alors ça me restait là. Et ce qui me restait là aussi, c'était le 18e français. C'était Diderot, c'était D'Alembert, Voltaire, que ce professeur me faisait comprendre et aimer. Et ça, c'était mon bagage. Le bagage qui me reliait à ma famille anticléricale, à religieuse, pour qui ça n'existait pas, les religions. Il n'y avait pas les juifs, les non-juifs. Tout ça, c'était pareil. Et moi, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Jusqu'au moment où je suis arrivé au Quartier Latin, en 1930, et où j'ai fait l'hypocagne à Louis le Grand avec Madame de Romilly, qui ne s'est jamais aperçue de ma présence, d'ailleurs, m'a-t-elle dit un jour, ce qui était sûrement vrai, parce que je n'étais pas un bon élève. Alors, je suis arrivé au Quartier Latin, politisé quand même. Et puis il y avait mon frère, qui était déjà venu 2 ans auparavant, et qui avait fait son trou chez les étudiants socialistes, dans une organisation qu'on appelait la LORS, Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste. Donc il y avait déjà un trou, et moi je me mettais dans ce trou, et je voyais comment ça militait. Et qu'est-ce que je voyais? Dans les années 30 et suivantes, en 32, 33, 34, le Quartier Latin, je ne dis pas la France, mais le Quartier Latin était entre les mains des ligues qui s'étaient développées, l'Action française, les jeunesses patriotes, les francistes, les nazis, les jeunes croix de feu, enfin, tout, et qui tenaient le Quartier Latin et qui prétendaient que les gens comme nous, qui avions des idées différentes, ne devait pas être là. Il m'est arrivé avec mon frère d'être chassé de la Sorbonne, avec les types qui lui disaient « Vous, les frères Vernant, on ne veut pas de vous ici. Vous n'avez rien à faire ici. » À cause de la présence comme ça, de ces violences, de cette brutalité, de cette bêtise des fascistes. C'était le mal, déjà, pour moi, ça. Et donc, j'étais passé des socialistes ou des républicains au PC. Et j'ai là trouvé tout un tas de gens qui m'ont suivi dans la vie ou que j'ai suivi dans ma vie, qui ont joué un rôle très grand. Je suis un antifasciste. Essentiellement, j'ai compris que c'était ça qui se jouait là. Qu'est-ce qui se jouait et comment? Pourquoi? Parce que 37, 38, 39, la France, où il y a eu le Front populaire, l'Espagne, où c'est la guerre civile et où on est suspendu à ça, et où on envoie des brigades pour les aider. L'Espagne qui va tomber aussi, donc. L'Italie de Mussolini. L'Allemagne de Hitler, la France est complètement englobée dans une série d'États fascistes qui veulent imposer, qui créent des pactes, qui se soutiennent. L'Espagne, Franco, il gagne grâce à l'aviation allemande et au soutien des Italiens, de l'infanterie italienne. Et malgré la non-intervention, c'est le début de la guerre mondiale qui existe. Et moi, ça, je comprenais ça très bien. Je comprenais que nous étions à un moment décisif. Est-ce que nous allions avoir la guerre? Est-ce que les démocraties et l'Union soviétique allaient gagner et construire une Europe qui serait une Europe démocratique et en même temps une Europe socialiste? Et alors tout est possible, tous les chemins sont ouverts. Ou si on est battu, c'est foutu. C'est foutu pas seulement parce qu'on est battu, mais c'est foutu parce que ce que l'histoire nous fait représenter, c'est ce qui est vivable du point de vue de la civilisation humaine. Parce que je vois mon pays, ma France, comme je disais. Autrement, je la vois comme ce pays où j'étais là, en 1938, avec les copains, à chanter nos chansons, avoir un certain style de vie, avoir un certain type de rapport avec les jeunes femmes, jeunes filles qui étaient là, qui étaient de liberté, qui étaient d'ouverture, qui étaient à la fois qu'on ne cède pas sur les principes, mais qu'on essaye d'être heureux. Les auberges de la jeunesse, c'était merveilleux de voir tous ces jeunes types, où il y en avait plein qui étaient des fils de prolos, qui n'avaient jamais bougé de Paris, et qui étaient là avec leur tante, et qui allaient se baigner à Saint-Raphaël avec nous. C'était le bonheur, parce que c'était la joie de vivre, mais une joie de vivre qui n'était pas le privilège de quelques-uns, mais qu'on mettait à la disposition de tous. C'était en même temps, sur le plan culturel, une grande liberté. On avait créé l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Tous les grands peintres étaient plus ou moins communisants ou communistes. Il y avait toutes sortes de troupes théâtrales qui s'étaient fondées et qui allaient dans les usines faire des représentations. Tout un art populaire qui essayait de se dégager. Pour moi, le bonheur. Alors c'est dans ces conditions que je pars faire mon service militaire dans les Alpes, dans les troupes alpines. Et c'est là que j'apprends, ça me tombe dessus, je ne m'y attendais pas, le pacte germano-soviétique. Alors là, je ne comprends rien. Comment c'est possible? Rien ne nous avait préparé à cela. Et bon, rien ne nous avait... Dans la presse communiste, vient de laisser supposer, Aragon s'illustre, comme il pouvait le faire en expliquant que la paix était assurée grâce à ça. Mais, tout ça, c'est le grotesque dans le sinistre. Et ma position consiste à dire, après tout, les Russes, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, ça ne change rien. Cette guerre, même si M. Ribbentrop va serrer la main de Molotov, même si Staline a le sourire comme ça, et Hitler de son côté signe leur truc, nous, Français, ce qu'on défend, c'est c'est une certaine idée de la France, du monde, de la culture, de ce qu'est l'homme. Et ça, on va pas baisser la culotte, on se bat.
Et c'est comme ça que en 40,
c'est comme ça qu'en 40, quand je vois ce vieux Pétain raconter son truc, je suis absolument scandalisé et je me dis, la bataille commence. Je me dis ça tout à fait. Et donc, quand il y aura la résistance, moi qui étais un ancien communiste, qui ai le sentiment de ne pas trahir mes idéaux, je suis dans la résistance gaulliste.
Oui, vous entrez, je crois, dans le mouvement Libération Sud, oui, qui avait été fondé par Emmanuel Dastier de la Vigerie. Voilà.
Qu'est-ce que ça signifie, cette expérience de lutte, de danger, de... Si vous voulez, à partir du moment où j'ai été révoqué et où je suis passé à la clandestinité complète, c'est de la véritable schizophrénie. On est comme des gangsters pourchassés par toutes les polices. Jamais on ne fait un pas sans regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière ou devant, un type qui prend une photo. on s'aperçoit à certains moments qu'on est suivi, ça j'ai été suivi même par des bagnoles, en vélo jusqu'à Valais, mais aussi on a l'impression qu'on a une surveillance, on n'est pas sûr. Il faut déménager les armes, le fric et tout, quelquefois, avec un type qui est là dont on se dit que c'est sûrement un mec de la Gestapo, français, pas allemand, qui regarde. Et il faut sortir son pétard, le lui mettre sous le nez et le remettre dans la poche pour qu'il ne bouge pas pendant que les copains déménagent les trucs en vélo et vous font signe. Pourquoi on ne tire pas? On ne tire pas surtout pas parce que les gens passent et que la Gestapo est à côté. Bon, je veux dire, c'est une tension terrible. C'est une tension terrible. Beaucoup de copains sont arrêtés, torturés. Tout ça, c'est vraiment dur.
Vous avez dit, un jour, vous avez écrit, que pendant la résistance, vous avez fait l'apprentissage de la diversité humaine.
C'est vrai. Alors ça, c'est le fond. Le fond, donc j'avais été un communiste pendant toute cette période 30, fin. Ensuite, dans la résistance, malgré tout, on divisait l'humanité en deux, les collaborateurs et nous. Mais à l'intérieur de la résistance, ce que je découvrais, c'était des gens, par leur origine, leur idéologie, leur conception de la vie, très différents de moi. Et politiquement, qui étaient sûrement très éloignés. Il pouvait même y en avoir qui avaient été l'Action française. Et je voyais qu'en dépit de cela, il pouvait y avoir entre eux et moi quelque chose de très profond. Des liens, j'ai souvent réfléchi à ça. Quels étaient ces liens que je pouvais avoir, ces gens si différents, et qui me les faisaient si proches, et qui faisaient que mes propres certitudes en étaient modifiées, que je ne voyais pas le monde de la même façon après les avoir connus. Les chrétiens, par exemple, une famille anticléricale, le vieil anticléricalisme, la calotte, toutes les plaisanteries sur les curés, tout ça. C'était autre chose. Hélas, ça a été là des épreuves chez les gens qui avaient été mes élèves, qui étaient ça, qui ont été fusillés après, qui ne m'ont jamais donné alors qu'ils avaient mon adresse. Tout ça, ça vous oblige tout d'un coup à vous mettre devant vos propres certitudes et à les regarder avec le regard d'un autre. Mais d'un autre, est-ce que c'était des amis? Certains l'étaient, d'autres ne l'étaient pas. Quand j'essaye de comprendre, je me dis, c'est comme les gens de la famille. C'est comme une même famille. Quand j'ai écrit ça, il m'arrive, là, quand je trouve tout d'un coup, je rencontre, moi maintenant ils sont morts presque tous, des gens qui avaient mon âge à ce moment-là, et qui, en parlant avec eux, je comprends qu'ils ont fait la résistance. Pas seulement qu'ils étaient, qu'ils ont fait la résistance. Que c'était, si je veux, des résistants professionnels. Et alors, j'ai l'impression que, de plein pied, on est d'accord ensemble. Même quand on s'engueule et qu'on n'est pas d'accord, ça ne fait rien. Il y a quelque chose qui nous lie aussi profondément que dans une famille, les histoires qu'on raconte et qu'on raconte à l'intérieur de la famille. La saga familiale, et qui fait qu'on a plaisir à se retrouver, même quand on ne s'est pas vu pendant si longtemps. On est proche, la proximité culturelle presque, si j'ose dire. Alors ça a beaucoup compté.
Thank you.
Jean-Pierre Vernon, j'aimerais qu'on revienne à une période qui précède la guerre, 1935. C'est votre premier voyage en Grèce. C'est un pays qui, à l'époque, est soumis à la dictature de
Metaxas.
Et alors, vous débarquez au Pirée, oui, sur un vieux rafio qui s'appelait, je crois, la Cité du Caire, c'est ça?
Oui.
Et dites-vous, plus que les monuments du passé, les vieilles pierres, je voulais voir les hommes partager leur vie, leur lutte, leurs espoirs. Mais toujours est-il que les vieilles pierres, et à l'occurrence c'était l'Acropole, vous laissent médusés, sans souffle, sans parole. Alors j'aimerais que vous nous parliez de ce premier contact avec la Grèce, avant même que vous entrepreniez des véritables études de Grèce.
Ce qui est vrai, c'est que je suis arrivé en Grèce avec mes copains. Il y en a un dont je dirais un mot, le Duc. Il y avait Yannick Brune, géologue, qui a fait toute la géologie de la Grèce après, qui a un musée. Il est mort il y a un mois et demi, aveugle. Et un autre, le Duc, dont je parlerai. J'ai un mot. On était des jeunes communistes à ce moment, à 35. Et on allait voir le peuple grec enchaîné. On a vu le peuple grec, il était peut-être un peu enchaîné. Enfin, c'est pas, il passait pas son temps à méditer sur ses chaînes. Mais je ne voulais pas aller là-bas comme un jeune bourgeois français ému par la culture classique et venant faire mon petit, pas mon discours sur l'Acropole, on était bien incapable, mais ma petite visite acropolienne. Je suis monté quand même. Et bah parce que c'est merveilleux, parce que c'est beau, parce que c'est pas seulement la Grèce, c'est pas seulement l'architecture, c'est pas seulement tous ces arrière-fonds littéraires que j'avais regardés, puis que j'avais étudiés quand j'ai fait la grecque de philo. Parce que quand on fait la grecque, à ce moment-là, il y avait du grec. Donc les philosophes, Platon, Aristote et tous les autres. Mais c'était le décor, le ciel, la mer, les ports, les petites îles, le bateau, regarder les nuits et tout ça. C'était la découverte de la Méditerranée, de la vraie Méditerranée, et un peu de quelque chose d'oriental qui me changeait de ma brie, sûrement, de ma brie ou même de ma France. Mais à ce moment-là, le Pirée, c'était un petit port oriental. Ça n'avait aucun rapport. Il n'y avait pas de maison nulle part, là. C'était un petit port. On a dormi sur une plage, directement sur le sable, les trois copains qui étaient là. Et très tôt, le matin, les pêcheurs qui venaient tirer leurs filets, qui nous ont réveillés en chantant et en nous blaguant.
Ce n'était pas Nausicaa, mais ça aurait pu.
Pas du tout. C'était comme ça. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. J'en vais venir au fait qui me paraît, pour la question que vous m'avez posée, le plus important. Si je regarde ça maintenant, je contacte avec un certain étonnement et une certaine satisfaction intellectuelle que quand j'arrive au quartier latin, je rencontre un tas de gens très différents. Il y en a qui font du droit, il y en a qui font de la médecine, du latin, du grec, de la philosophie, ce que vous voulez. Ils sont de cultures différentes. Mais ils ont en commun qu'ils ne peuvent pas blairer le fascisme, qu'ils veulent se battre. Et qu'ils ont été vaccinés par la politique. Ce sont des politiques. Moi, la grecque des philos, je l'ai préparée comme tout le monde, mais j'ai fait beaucoup de politique. Je lisais tout, toute la politique. C'était la passion du Et mon copain, là, le Duc, celui qui était un de nos patrons, il était le politique incarné. On passait notre temps, contrairement à la jeunesse d'aujourd'hui, à analyser les situations politiques. Il n'y a plus que les trotskistes qui font ça. Mais ils analysent ça dans le vide. Tandis que nous, c'était la vie réelle. Et en même temps qu'on faisait ça, on ne séparait pas cette activité intellectuelle d'efforts pour comprendre ce que nous avions sous le nez. Et comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on s'insérait là-dedans. Comment non seulement on était concernés, mais on était dedans. C'était de nous qu'il s'agissait, complètement. Et on ne distinguait pas, il n'y avait pas de coupure entre cet engagement pour faire d'efforts pour comprendre ce que nous avions sous le nez et comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on s'insérait là-dedans. Comment non seulement on était concerné, mais on était dedans. C'était de nous qu'il s'agissait, complètement. Et on ne distinguait pas, il n'y avait pas de coupure entre cet engagement pour faire comme tout le monde et d'autre part, les blagues, les plaisanteries, cette façon très française de se moquer de nous-mêmes et de lire les choses intellectuelles, d'aller au théâtre, de discuter des livres, de discuter de la peinture contemporaine, de discuter du freudisme et du marxisme. Les loisirs, l'intelligence, l'activité du créateur intellectuel et la politique, c'était pas séparé, c'était la même chose. Et on était une bande, là. Et quand je regarde maintenant, je m'aperçois que ces gens-là, avec qui j'ai été aussi me balader en vacances, en Sicile, en Grèce, avec certains d'entre eux en URSS, je m'aperçois en 40 que tous, ils vont s'engager dans la résistance, sans exception. Et que non seulement ils vont tous s'engager dans la résistance, mais qu'ils vont y jouer un rôle majeur, qui ne seront pas le petit résistant, qui seront des patrons. Ça, ce petit groupe de types qui a été formé à l'école du PC, mais qui n'était pas un PC comme après, qui était comme une église où les gens devenaient communistes comme s'ils se convertissaient, ils sauvaient leur âme, ils devenaient purs, ils s'alignaient sur les positions de la classe ouvrière, ils se purifiaient de leurs erreurs, de leurs préjugés bourgeois. Pas du tout. Nous, on était des militants, on raisonnait, qu'est-ce qui a raison? Et les luttes en URSS, qu'est-ce que ça signifie? Comment expliquer ça? On était des politiques. On n'était pas des gens qui attendaient le baptême et qu'on nous donne la foi en Dieu. Pas du tout. Il n'y avait pas de Dieu, ni Dieu, ni diable. Il y avait les communistes qui raisonnaient ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui étaient décidés à faire tout ce qu'il faut. Ils jouent un rôle majeur. Ils ont tous joué un rôle fondamental dans la résistance et après la résistance, pour la fabrication de nos textes. Et puis ensuite, dans les années 50, quand ça commence à trembler du côté de l'Est, c'est les mêmes que je retrouve qui vont constituer ce qu'on appelle les groupes d'opposition au sein du parti, dès 1954-56, qui publie dans une presse clandestine, c'est les mêmes qui se retrouvent là. C'est-à-dire que depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 5, dans les années 60, où il y a la grande bagarre dans le PC italien et dans le PC français pour essayer de secouer les ahuris qui sont là, les bureaucrates staliniens accrochés à leur poste, incapables de comprendre et de voir ce qui se passe sous leur nez, de comprendre ça que nous avions très bien compris. C'est que la première moitié du 19e siècle, du 20e, le problème c'est fascisme ou antifascisme. Est-ce qu'ils vont gagner ou nous on va gagner? Mais que la deuxième moitié du 20e siècle, c'est plus ça. Mais c'est liberté des peuples coloniaux ou guerre coloniale. C'est les mêmes qui sont contre les guerres coloniales. Tous les types qui étaient là avec moi au Quartier Latin, je les retrouve pour qu'on ait une politique anticolonialiste, nous les communistes, plus franche. Ça veut dire que pendant toute cette période, il y a des groupes de gens qui ont pérégriné à travers l'histoire, serrés les uns contre les autres, quelquefois sans du tout se concerter, mais qui avaient en commun qu'ils étaient, qu'ils se proclamaient, qu'ils se voulaient des communistes. Tout à fait. Après, ça valsait plus, mais qu'ils se voulaient des communistes. Qu'ils pensaient qu'en Union soviétique, c'était créer une révolution qui changeait la face du monde. Mais que, cela étant, d'une certaine façon, par leurs origines sociales, par le fait qu'ils étaient des intellectuels, ils étaient toujours sentis par le PC comme un peu marginaux. On se méfiait d'eux. C'était les types qui avaient ils discutaient trop. Ils avaient trop l'esprit critique. Ils voulaient toujours savoir le pourquoi des choses. Ils mettaient en question les lignes générales. Et que ça, ils l'étaient à tous les moments. Ils rebondissaient d'une attitude de soutien au PC à une attitude critique du PC, à une volonté de tout changer. Au Quartier Latin, pour l'unité avec les socialistes. Au moment de la guerre, pour la résistance gaulliste. Après la guerre, pour un large front. Contre les guerres coloniales, contre la politique des partis dans les affaires coloniales, contre toute la politique stalinienne des partis communistes. Et finalement, ils sont tous partis. Non, la plupart du temps, ils avaient été exclus. Tous ceux qui avaient joué un rôle majeur dans la résistance ont été exclus parce que le parti ne disposait pas d'eux à sa guise. Ils n'étaient pas malléables. Ils avaient leur réputation, leur liaison.
Jean-Pierre Bernand, quand en 1962, vous publiez les origines de la pensée grecque, où vous définissez la genèse de la rationalité et de la philosophie hellénique, et où vous montrez que philosophie et rationalité sont nées grâce au débat politique, et où vous dites que partout où on interdit la discussion, on est en dehors de la pensée rationnelle. En 1962, comment l'univers idéologique du parti communiste a pu prendre une telle proposition où vous disiez clairement que s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de pensée rationnelle, et ça à partir d'une étude de l'Antiquité, de l'Antiquité grecque.
Vous êtes là au cœur du problème. Là, je vous ai fait une espèce de survol embêtant et fâcheux, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ce survol politique et actif engagement. Et puis alors, une des raisons pour lesquelles, quand j'entre à la recherche, je ne suis plus prof de philo, 48, je m'intéresse à la Grèce, c'est que deux raisons. D'abord, ces Grecs sont des gens qui ont l'esprit libre. Il n'y a pas de question qu'ils le mettent en débat. Et ensuite, je pensais que le PC, qui avait sa position idéologique que je considérais comme totalement fausse, avec le rapport Jdanov, sur les questions intellectuelles, les Grecs, ils s'en foutaient. Donc, ils n'iraient pas me chercher d'oise, ils me ficheraient la paix. Je pourrais écrire sur les Grecs ce que je voulais, ce que je fis. Et bien entendu, là, ça se noue. Parce que quand j'écris ce livre que me demande Dumézil, Les origines de la pensée grecque, comment ça se fait qu'on est passé, comme j'écrirais ailleurs, formule que je n'emploierai plus, du mythe à la raison. Qu'est-ce que c'est que cette mutation qu'on voit se faire dans ce petit pays-là, d'un bout de la Méditerranée, où tout d'un coup apparaissent des philosophes, des gens qui raisonnent, qui discutent, qui mettent tout en question, qui reposent des certitudes, mais qui sont critiqués par leurs voisins, où le débat, la discussion argumentée, c'est ça la règle de la pensée, et non plus l'envolée lyrique de l'épopée ou tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Historiquement. Ce qui s'est passé historiquement est aveuglant pour moi. Il s'est passé qu'un groupe d'hommes, pour des raisons historiques que les historiens doivent analyser, a décidé qu'il n'y aurait plus. Il n'y aurait plus un roi, il n'y aurait plus une monarchie. Il y aurait un groupe d'hommes qui se considèrent tous comme des échos, comme des égaux, et ayant tous le même droit de participer à la vie publique. Il y a une société qu'on peut appeler société d'hommes si tous les hommes qui sont là ont les mêmes droits au débat, à faire connaître leur avis et à voter. Et c'est ça la clé de tout. Quand la décision sur les grands problèmes, la paix, la guerre, tel dieu, tel rite, c'est une discussion, c'est un débat public et contradictoire. Ça veut dire que le vrai ne peut pas être proclamé ni par un roi qui jouerait un rôle d'intermédiaire entre le ciel et la terre, ni par un tyran qui s'est emparé du pouvoir et qui impose ses normes, mais par cette espèce de délibération où la parole n'est plus la parole du prophète, ni de loin de Dieu, mais la parole de tout un chacun, qui a la même parole que celle d'à côté. Et ces paroles s'échangent, elles discutent, et ce sont celles qui démontrent qu'elles ne sont pas réfutables, qui prouvent la validité de la vie correspondant à cette parole. On entre dans une logique du débat qui était complètement absente. Et par conséquent, j'en tire la conclusion qu'un parti comme le PC, qui non seulement ne fait pas de débat, mais qui déclare qu'il ne faut pas en faire, que c'est déjà réglé, que tout est bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes théoriques possibles, parce que la vérité est déjà là. La vérité, elle est dans les livres de Marx, de Lénine, des brochures de quelques intellectuels fatigués. Elle est là, il n'y a qu'à la prendre.
Elle est immuable.
Elle est immuable par définition. Et si vous voulez en discuter, vous êtes déjà un faux frère et un dangereux personnage.
Jean-Pierre,
donc c'est là que se fait le lien entre une œuvre scientifique qui va déborder dans beaucoup d'endroits et une espèce d'expérience qui était mon expérience à tous ces niveaux. Il faut s'engager, mais la tête toujours froide. Mon vieux maître Meyerson m'avait dit un jour, précisément il s'agissait du rapport Zhdanov. Alors j'avais lu ça, j'ai dit, ah bien ça, mais ce type est complètement demeuré. Il n'est pas seulement ignare dans toutes les choses culturelles, mais c'est incroyable, inimaginable qu'on puisse écrire ce qui est écrit. Mais il y a seul qui voulait me calmer, m'a dit, écoutez Jean-Pierre, oui, ça leur passera. Et comprenez une chose, si vous êtes sur un bateau, il y a une tempête, comme c'est le cas, c'est 48, 49. Il y a un capitaine, même s'il n'est pas impeccable. Il faut faire ce qu'il dit, sinon on n'en sort pas. Et donc dans les affaires politiques, il faut accepter de se rallier. Par contre, dans les affaires intellectuelles, rien. Vous ne changez jamais une virgule. Même quand on vous dit « il faut mettre moins virgule », dites « non, j'ai mis une virgule, je la laisse ». Ça, c'est mon texte. Et c'est moi qui ai publié. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, je pense, moi, que sa comparaison du bateau, même le bateau, le capitaine, il faut discuter ses ordres et discuter avec lui. Parce que sinon, on s'aperçoit que c'est le bateau qui coule.
Jean-Pierre Vernant, vous citez à l'instant le nom d'Ignace Meyerson, qui était l'un de vos deux grands maîtres avec Louis Gernet. J'aimerais que vous nous disiez, est-ce qu'il y a une convergence, est-ce qu'il y a eu pour vous une convergence entre l'enseignement de Meyerson et de Gernet?
Enseignement, non, parce que Gernet enseignait.
Enfin, l'enseignement au sens large pour vous, dans votre formation.
Certainement. Donc Gernet, c'est un helléniste de haut vol, il savait tout, il avait tout lu. Ils savaient tout. Mais il y a des hellénistes qui, dans un domaine, savent tout. Archéologie ou paléographie ou littérature ou vie économique et sociale. Lui, il savait tout. Et il savait surtout qu'aucune de ces parties qu'il étudiait à un moment donné, c'était un spécialiste du droit grec, aucune des parties qu'il étudiait ne pouvait être comprise en dehors de l'ensemble. Qu'il y a une civilisation où les choses sont à la fois un état de tension, se contredisent, ce qu'il y a dans la religion, ce qu'il y a dans les rites contredit ce qui se fait ailleurs. L'organisation sociale elle-même reflète ces contradictions, mais en même temps, tout se tient d'une certaine façon. Et quand ça bouge d'un côté, ça se répercute aussi ailleurs. Alors, Gernet, c'est ça qu'il pensait. Il me fait découvrir une Grèce que je n'aurais même pas supposée. Il me fait découvrir une Grèce comme un anthropologue fait découvrir à un visiteur une des tribus chez qui il l'amène. Meyerson, c'était autre chose. Meyerson, il m'a formé intellectuellement parce qu'il avait une vision très générale de ce qu'est l'homme, de ce qu'est le niveau. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme? Pourquoi? Il y a des hommes et puis il y a des animaux. Il y a des choses communes et puis il y a un seuil que les animaux n'ont pas franchi. C'est ce seuil qui est intéressant, et c'est en examinant ce seuil, c'est-à-dire quoi ? Le langage, les sociétés, les institutions, les arts, les sciences, tout ce qu'on appelle la culture, la civilisation, tout ce qui est collectif et symbolique, qu'on comprend ce qu'est l'homme.
Jean-Pierre Venant, à plusieurs reprises, j'ai lu dans vos livres, vous dites que vous n'êtes pas tout à fait un historien. Pour vous, le modèle de l'historien, c'est Pierre Vidal-Naquet, qui était votre grand ami.
Par rapport à moi, sans aucun doute.
Alors, après, vous dites que vous n'êtes pas tout à fait linguiste, que vous n'êtes pas tout à fait philologue. Vous êtes quelqu'un, finalement, qui ignore volontairement les frontières et qui passe de...
Cet état de faiblesse, puisque je ne suis pas un spécialiste de ci, fait que j'ai une position que ce brave Émile Poulain me signalait un jour en discutant. Il m'a dit, tu es comme une gare ferroviaire. T'as pas ton train sur une ligne qui va tel endroit. T'es à un endroit et ton boulot, c'est de faire en sorte que le train qui vient de là parte là-bas, que l'autre qui vient ailleurs se rend, etc. Tu joues avec
les aiguillages. Les aiguillages.
Avec les aiguillages. Tu es une gare d'aiguillage. Je pense que c'est vrai. C'était vrai en partie. C'est vrai que ce qui a fait, m'a-t-il semblé, que mon travail, qui fut divers, qui a porté sur des choses qui n'étaient pas pareilles, mais que ce travail a intéressé des jeunes, qu'on a créé un centre, que j'ai créé un centre, avec d'autres. Au départ, c'est quand même moi qui l'ai créé.
Le centre Louis Gernet.
Le centre Louis Gernet, qu'on appelait à l'étranger le centre Vernon. Et que je disais quel savant, helléniste américain, a dit dans un papier, consacré d'ailleurs à Vidal-Naquet, que dans ce centre Vernon, on faisait du grec à la française. Pourquoi ? Parce que c'était structuraliste. Il y avait la mythologie, il y avait tout ça. C'est vrai, il y a eu ça.
Jean-Pierre Vernant, faisons une hypothèse. Imaginons que vous soyez convoqué, non pas devant un tribunal, mais devant une assemblée où il y aurait à la fois Platon, Dionysos, Ulysse, Euripide, Homère, Prométhée, Pandore. Là, je ne cite que quelques noms des Grecs dont vous vous êtes occupé. Et imaginons qu'ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il a fait Vernon ?
Qu'est-ce que je réponds ?
Oui.
À mon avis, je répondrai ce que j'ai fait. J'ai essayé de vous comprendre. Et je me suis aperçu que ce n'était pas chose facile, mais que ça me rendait heureux. Parce que vous valiez la peine qu'on essaye de penser comme vous, à travers vous, autrement, toujours libre. J'ai compris que ce qui était décisif, c'était ça. C'était de savoir qu'on peut toujours construire un régime des institutions, des polices, qui interdisent, qui restreignent, qui vous mettent dans un filet. Et quelquefois, il est très difficile de les combattre. Mais là où j'ai vu que le combat avait donné des fruits, en Union soviétique, où je me suis occupé des dissidents, pas mal, où j'en ai vu, en Tchécoslovaquie, dont je me suis occupé pas mal aussi, puisque j'ai dirigé avec Derrida l'association Jan Hus, qui allait à Prague sous le régime des communistes faire des conférences plus ou moins clandestines, j'ai dit, et je pensais, que quel que soit le tank qui marche sur un terrain asphalté et qui écrase tout sur son passage, s'il y a un homme ou des hommes, des individus, qui ne cèdent pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas de faire ce travail intérieur de renoncement. Oui, c'est pas, au début, on trouvait ça dégoûtant, mais après tout, ils ont leurs problèmes. de consentement à ce qui est inacceptable, qui comprennent que le refus, dans certains cas, est un refus quasi métaphysique. Je ne peux pas rentrer là-dedans, comme au moment où les nazis sont vainqueurs. On ne peut pas discuter avec eux. C'est pas la même humanité. Alors, c'est là que ça a marché, parce que ces gens qui n'étaient rien, qu'on apprend que finalement, ça a fait boule de neige, et la force brutale a cédé. Oui, liberté, on appelle ça liberté de penser, le droit de l'homme, je ne sais pas si c'est ça. C'est capacité d'être intérieurement, avec soi-même, assez lucide.
Vous avez écrit que vous vous étiez fixé un triple but dans votre vie. Un grand amour, un grand projet, un grand espoir. Est-ce que vous avez le sentiment de les avoir atteints ?
Cette formule, c'était une formule que m'avait donnée Meyerson, qui m'avait dit, la vie vaut la peine d'être vécue, si quand on a votre âge, on a devant soi l'idée, là, un grand amour, une grande tâche à accomplir, et un grand espoir. Et nous l'avions. Le grand amour, je crois que je l'ai eu. C'est pas facile, je ne sais pas.
C'est cette jeune femme qu'on a vue dans les photos,
oui,
au tout début.
Qui est là aussi. Que j'ai connue quand elle avait 14 ans. Je me suis marié avec elle en 39. Un grand amour. Une grande tâche, je l'avais. Parce que je l'ai faite. J'ai fait ce que j'ai pu, pas beaucoup. Un grand espoir, j'en avais l'immense. C'est là qu'il m'a fallu en rabattre le plus. Je suis en plein rabat.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Vernant. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Prise de son, Étienne Leroy. Mixage, Annick Brien. Réalisation, Daniel Finot. Une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com. Merci à tous.